Cécile Bras.
Après cette émission, vous ferez peut-être plus attention à l'endroit où vous mettez les pieds. Parce qu'elles sont des milliards capables de s'adapter à tous les milieux, sauf les pôles et les océans. Les fourmis vivent sur la même planète que nous depuis 100 millions d'années et leurs capacités sont innombrables. Un livre, L'incroyable instinct des fourmis, vient de sortir chez Flammarion. Il nous plonge au cœur de la vie quotidienne des fourmis coupeuses de feuilles d'Amérique du Sud. C'est passionnant et vertigineux, ça méritait bien une émission.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Alain Lenoir.
Bonjour.
Vous êtes myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis que vous examinez, scrutez depuis 40 ans.
À peu près, oui. Oui.
Et alors avant de parler de quelques espèces en particulier, comme justement les coupeuses de feuilles d'Amérique du Sud, hein, ou les légionnaires et les tisserandes très présentes sur le continent africain, on va commencer par décrire ce qui est commun aux... Combien on dit 12 000 espèces de fourmis
12 000 connues, décrites de manière certaine à l'heure actuelle, mais probablement entre 20 et 30 000 espèces, ça veut dire qu'on est très loin de toutes les connaître à l'heure actuelle. On en décrit tous les ans au moins plusieurs centaines.
Alors elles sont réparties de manière inégale sur la planète ?
Tout à fait inégale, puisque à côté de nos régions où on trouve 250 espèces de fourmis, en pays tropical, on va en trouver entre 10 et 12 000.
Alors, elles sont capables de prouesses incroyables, on va en parler, mais elles ont quand même ce qui les caractérise, c'est leur morphologie. Hein. C'est comme ça qu'on les assimile à la famille des fourmis.
Exactement. Tous les enfants sont capables de reconnaître au premier coup d'œil une fourmi, avec sa tête, son thorax, son abdomen, et puis surtout les deux antennes avec une petite massue au bout. Un enfant de 4 ans est capable de dessiner une fourmi en général. C'est facile à reconnaître.
Alors les auditeurs ne vous voient pas, mais vous faites très bien les antennes avec vos mains. Alors donc on le disait, elles sont capables de prouesses incroyables parce que certaines espèces sont équipées d'outils très perfectionnés.
Tout à fait. Que ce soit les mandibules qui permettent de couper les feuilles, comme on le verra tout à l'heure. Et les fourmis sont des insectes, donc elles ont une carapace externe, ce qui leur donne une force extraordinaire. Et parfois, elles vont même utiliser leurs pattes pour agripper et capturer des insectes. Je crois que le record en forêt, ça a été fait en Guyane, justement, il n'y a pas très longtemps. Voir des fourmis qui sont capables d'agripper en se mettant à plusieurs, une sauterelle qui fait 18 000 fois leur poids, je crois. C'est vraiment colossal.
Et donc, elles sont capables de porter des charges très lourdes.
Et surtout que quand les charges deviennent plus lourdes, elles sont capables de coordination, de se mettre à plusieurs pour transporter ces proies. Donc, ça multiplie leur efficacité.
Alors, pour simplifier, on pourrait dire que certaines sont de véritables machines de guerre. Elles peuvent sécréter des substances qui sont nuisibles pour d'autres insectes ou des prédateurs.
Oui, machines de guerre, oui, avec leur mandibule pour se défendre, pour attaquer, pour tuer. Avec leur dard pour tuer les proies, avec un venin parfois très très puissant.
Et elles communiquent beaucoup entre elles, hein, puisque justement quand il y a un danger, elles ont une façon d'alerter les autres.
Elles communiquent, on dit que les fourmis sont de véritables usines chimiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de fabriquer des centaines de substances différentes qui servent à toutes sortes de communications, que ce soit pour prévenir les congénères qu'il y a une proie qui a été trouvée, qu'il y a une alarme, qu'on va marquer une piste, on va appeler les autres, puis surtout aussi de se reconnaître entre elles. Elles ont des substances sur leur cuticule qui sont une véritable carte d'identité chimique. Elles se reconnaissent comme ça, une sœur ou une étrangère.
Oui, justement, comment est-ce que ça se passe la vie d'une fourmi? C'est-à-dire, ça démarre à l'état de larve?
La fourmi est d'abord un œuf, comme beaucoup d'espèces animales. Ensuite, il y a une larve qui se développe, qui passe par quelques stades larvaires avec des mues. Ensuite, il y a une nymphe qui peut faire un cocon. Et ensuite, il y a le jeune adulte qui émerge. Et au début, pendant quelques jours, il est tout pâle, il a besoin de se pigmenter, et progressivement, il devient actif, et là, il va participer aux tâches de la colonie.
Alors justement, qui est consacré à quelle tâche? Comment ça s'organise?
Alors ça s'organise beaucoup en fonction de l'âge. Dans le cas général, c'est-à-dire que les jeunes fourmis, elles restent dans la colonie, elles sont nourrices, elles vont s'occuper des larves, elles vont s'occuper de faire du nettoyage, de l'hygiène, elles vont s'occuper de la reine aussi, nourrir la reine. Et puis après, au fur et à mesure qu'elles deviennent plus âgées, elles deviennent nettoyeuses, elles s'occupent de l'entrée du nid, puis progressivement, elles vont sortir et devenir fourrageuses, c'est-à-dire qu'elles vont aller explorer l'environnement et récolter de la nourriture.
Alors c'est très difficile d'être mâle dans une fourmilière.
Je ne sais pas si c'est difficile, mais la vie des mâles n'est pas une vie très enviable ici, puisque les mâles vivent très peu de temps, quelques semaines, quelques mois maximum, et servent uniquement à s'accoupler, c'est-à-dire à transmettre leurs gènes, et donner aux reines une provision de spermatozoïdes, puisque les reines gardent ont leur provision de spermatozoïdes pour toute la durée de leur vie.
Alors comment se passe justement la reproduction ?
Le cas général, c'est un vol nuptial, c'est-à-dire que les fourmis ailées, ce qu'on appelle les fourmis volantes, donc les mâles et les femelles, et l'accouplement se fait en vol. Et après, les reines retombent sur terre, elles vont s'arracher les ailes et trouver un endroit pour installer leur nouvelle colonie. Les reines peuvent s'accoupler plusieurs fois. Par exemple, dans les fourmis champignonistes dont on va parler dans quelques instants, la reine s'accouple entre 5 et 10 fois le plus souvent. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'énormément de spermatozoïdes pour toute sa vie, qui peut durer entre 10 et 15 ans.
Alors certaines reines sont gigantesques et sont capables de produire un nombre incroyable de fourmis.
Ah, tout à fait. Les reines d'Atine ou les reines de fourmis magnan, les fourmis légionnaires d'Afrique par exemple, elles sont capables de pondre 20 œufs à la minute, ça fait des millions et des millions d'œufs produits en une année.
Pendant combien de temps?
La durée de vie de la reine, elle se repose, la reine. Elle a des cycles de ponte, après elle se repose. Mais c'est-à-dire, fourmis légionnaires, on ne sait pas trop, quelques années. Et les reines de champignonistes, c'est très longtemps. On estime 10 à 15 ans, facilement. Ouais.
Il peut y avoir plusieurs reines dans une fourmilière?
Non, en principe, non. Pas dans le cas général, c'est une reine par fourmilière. Surtout dans ces fourmis-là, où il y a toujours une seule reine. On dit monogyne, une seule reine.
Alors, l'une des caractéristiques communes à toutes les fourmis, on parlait de leur capacité de communication, c'est que c'est un insecte social. Et alors, il y a des tailles de société, on peut parler comme ça, on parle de société de fourmis.
Oui, la société.
Qui sont très différentes.
Ah oui, puisque premièrement, les fourmis ne peuvent pas vivre seules. Elles sont obligatoirement sociales.
Une fourmi seule meurt.
Une fourmi seule meurt. Et les plus petites sociétés de fourmis, c'est 4 à 5 individus, mais c'est quand même une vraie colonie, c'est-à-dire avec une reine qui se reproduit, et puis des ouvrières. Des ouvrières qui ne se reproduisent pas, qui se consacrent aux tâches de la colonie. Et ça va après, évidemment, jusqu'à 5 à 10 millions d'individus, comme les fourmis champignonistes ou les fourmis légionnaires, qui forment d'énormes colonies.
Alors justement, dans le livre sur l'incroyable instinct des fourmis, pour lequel vous avez conseillé le traducteur, mais qui a été écrit par Berthe Holdebler et Edward Wilson, il est question d'une super colonie de fourmis découverte sur l'île japonaise d'Hokkaido, qui contenait 306 millions d'ouvrières,
exactement.
306 millions, 1 million de reines, oui. Vivant dans 45 000 nids, et tout ce petit monde était interconnecté sur un territoire de près de 3 km². C'est exceptionnel, ça ?
C'est assez exceptionnel. On a un autre exemple qui n'est pas cité dans le livre, mais qui est beaucoup plus proche. C'est dans le Jura suisse. Il y a aussi une super colonie. Les fourmis rousses qui forment des dômes de brindilles. Il y a une super colonie qui est peut-être un peu moins grande que celle-ci. J'ai pas les chiffres en tête, mais qui exactement correspond aux mêmes critères. C'est-à-dire toutes les colonies connectées et qui se reconnaissent comme de la même famille, entre guillemets, et famille élargie avec des millions de reines, mais c'est quand même une même famille. Et ces colonies, d'ailleurs, elles ont une frontière bien nette, elles reconnaissent comme différentes les colonies voisines.
Et donc elles vivent en société, chacune sachant ce qu'elle a à faire instinctivement.
Tout à fait, oui, oui. On parle de super-colonies, mais on parle aussi de super-organismes. Et là, c'est vraiment le super-organisme à une échelle infiniment plus grande que par rapport à ce qu'on connaît d'habitude.
C'est-à-dire que l'intérêt de la fourmilière passe au-dessus, si je puis dire, de l'intérêt de la fourmi.
Exactement, ça c'est ce qu'on appelle l'altruisme. C'est une des choses sur lesquelles Edward Wilson, l'Américain, qui est un des co-auteurs de ce livre-là, a beaucoup insisté. C'est l'altruisme des individus qui se dévouent pour leur société, pour leur colonie, et dans les cas les plus marqués même, qui abandonnent leur fertilité, c'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent plus. Les ouvrières sont stériles. Alors selon les espèces, elles peuvent être stériles physiologiquement, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus d'ovaires. Donc là, le problème se pose pas. C'est au cours de l'évolution que ça a été sélectionné. Et il y a des espèces où les ouvrières ont quand même des ovaires. En l'absence de la reine, elles vont pouvoir pondre des œufs qui vont donner des mâles. Là, elles se reproduisent un petit peu quand même, éventuellement.
Alors, ce qui est absolument incroyable quand on observe, par exemple, les images de fourmilières avec des millions d'individus, comme on en parlait à l'instant, c'est qu'on a l'impression que, En fait, il y a une organisation extrêmement poussée, comme si c'était un seul cerveau avec plein de millions de neurones.
Oui, on peut prendre l'image du super-organisme, c'est-à-dire que tous ces cerveaux connectés forment un immense cerveau global. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de chef au sens propre du terme. C'est pas la reine qui est le chef. La reine, elle est le chef physiologique parce qu'elle pond. Elle a un rôle particulier, mais on parle d'auto-organisation.
Est-ce que c'est pas ce dont nous aurions besoin, nous, les humains, pour relever les défis du 21e siècle?
Peut-être, je ne sais pas.
Ce sentiment d'être connecté entre nous pour une même cause.
Je suis toujours un peu réticent à comparer la société de fourmis à la société humaine, à pas faire de l'anthropomorphisme. Mais en tout cas, on peut effectivement trouver des modèles. Par exemple, il y a des collègues du CNRS à Toulouse qui ont modélisé le déplacement de colonnes de fourmis dans un endroit, dans un couloir avec un rétrécissement, et voir comment font les fourmis. Ils sont aperçus que finalement, dans les couloirs du métro, quand il y a un rétrécissement, les humains ont tendance à faire un peu la même chose. Donc, on peut effectivement trouver des parallèles de temps en temps.
Cette connexion qui nous manque, nous sommes peut-être malgré tout en train de la construire, comme nous l'expliquera demain dans C'est pas du vent l'économiste américain Jeremy Rifkin.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. N'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi pas?
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui de Alain Lenoir, spécialiste des fourmis depuis une quarantaine d'années. Alors nous venons de parler, Alain Lenoir, des caractéristiques communes aux quelques 14 000 espèces de fourmis, et encore on n'en connaît qu'une petite partie, qui jouent tout un rôle essentiel dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent, comme ici par exemple dans la forêt guyanaise. Explication de Kevin Pinault du laboratoire d'études scientifiques Biotope.
En forêt tropicale, on a des systèmes qui sont quand même relativement complexes en termes d'organisation des oiseaux. Et donc, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, c'est le cas du fourmilier manicupe, donc Pitis albifrons pour le nom scientifique. Et donc, lui et ses espèces proches, qu'on appelle aussi des fourmiliers, ont la particularité en fait de suivre les nappes de fourmis itinérantes, donc en sous-bois, en forêt tropicale. On a des grandes nappes de fourmis qui peuvent parcourir de très très grandes distances sur une journée avec des très très fortes densités. Et en fait, c'est comme une armée qui se déplace sur un champ de bataille. Et donc en fait, ces fourmis vont se nourrir des insectes, mais la plupart des insectes vont fuir cette nappe de fourmis. Et donc on a ces oiseaux qui sont spécifiquement associés à ces nappes. Et donc en fait, ils vont pas se nourrir des fourmis qui forment la nappe, mais ils vont se nourrir des insectes qui fuient la nappe de fourmis. Donc en fait, c'est une association très proche entre cette nappe de fourmis et puis ces oiseaux qui vont pouvoir les suivre. Quand on se balade une journée entière en sous-bois, en forêt, il est pas rare de tomber sur une ou deux nappes et d'assister à ces phénomènes assez particuliers. L'observation est pas toujours évidente parce qu'on n'a pas un front d'avancée très nette. Donc souvent on essaye d'être en aval du front d'avancée pour éviter de se faire toucher par les fourmis, mais souvent ça déborde sur les côtés, donc des fois l'observation n'est pas évidente.
Et oui, c'est ça, le travail de scientifique que vous connaissez bien, Alain Lenoir. On comprend bien à travers ce témoignage l'importance que peuvent jouer les fourmis dans les écosystèmes. Vous étiez en Guyane il n'y a pas tellement longtemps.
Oui, tout à fait. Bon, les fourmis font, surtout en forêt tropicale amazonienne, les fourmis sont un des éléments importants de l'écosystème et de l'équilibre de la forêt. Alors, y compris les fourmis coupeuses de feuilles qui peuvent être très nuisibles quand elles sont près de monocultures comme des cacaoyères, des cultures de d'EVA ou autres. Mais en forêt, les arbres savent se défendre et ça fait partie de l'équilibre de la forêt.
Alors le livre L'instinct des fourmis s'intéresse plus particulièrement, on le disait, aux coupeuses de feuilles qui vivent donc dans ces régions en Amérique du Sud. Alors ce sont des insectes exceptionnels qui, selon les auteurs d'ailleurs, pourraient faire partie des sept merveilles du monde. Je ne sais pas si vous partagez cet avis.
Bon, peut-être, pourquoi pas.
Mais c'est vrai que leur cerveau à 1 million de neurones leur permet de faire quand même des prouesses extraordinaires, à commencer par leur symbiose avec un champignon.
Alors c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que ces fourmis ont inventé l'agriculture bien avant les humains. Ça date de les premières traces datent de 50-60 millions d'années, et la vraie agriculture avec les champignons date de entre 10 et 20 millions d'années, c'est un peu plus récent. C'est un champignon comme les lépiotes exactement, celui qu'on trouve chez nous, mais qui ne fructifie jamais parce que dès qu'il a envie de fructifier, les fourmis le castrent, le coupent, les ce qui dépasse, et en fait, il est cultivé sur des feuilles broyées avec de la salive, et puis elle défèque aussi sur ses feuilles pour remettre les enzymes qui permettent la digestion de la cellulose.
Donc, elle coupe les feuilles qu'elle transporte. Hein, certains ont peut-être vu ces images. On voit des fourmis avec des petits bouts de feuilles, ça fait un peu parapluie au-dessus d'elles.
D'ailleurs, en Guadeloupe, on les appelle les fourmis parasols. Puisqu'on a l'impression qu'elle transporte ça pour se protéger du soleil.
Et après, finalement, elle transforme ses feuilles en compost pour nourrir le champignon.
Pour nourrir le champignon. Parce que ce qui est dans les feuilles, c'est il y a très peu de nutriments intéressants. La cellulose et tout ce qui est autour de la cellulose n'est pas biodégradable. Il n'y a que les vaches qui sont capables de faire ça chez les vertébrés. Mais par exemple, nous, quand on mange de la salade, on récupère quelques sucres, mais c'est tout. C'est très peu nourrissant. En utilisant un champignon, et après en mangeant les filaments du champignon, on peut nourrir les larves.
Alors quel rôle joue ce champignon justement dans la fourmilière ?
Ce champignon, il a le rôle de digérer les feuilles, de digérer la partie dure de cellulose et hémicellulose, enfin beaucoup d'autres produits qui sont à base d'amidon transformé, et de les rendre digestibles.
Et alors ces fourmis sont vraiment fascinantes, c'est-à-dire que, bon, on le disait, il y a plein de milliers d'espèces, mais celle-là est particulièrement, comment on pourrait dire, bien organisée.
Oui, c'est probablement un des sommets de l'organisation sociale, avec une reine, des castes d'ouvrières de tailles différentes, avec des ouvrières minimes qui font à peine plus d'un millimètre. Ce sont elles qui s'occupent du champignon, qui vont récupérer les petites boules de champignons pour donner à manger aux larves. Après, il y a des ouvrières de taille moyenne, encore plus grandes, et les toutes plus grandes, qui sont les soldats, entre guillemets, qui servent essentiellement à la défense de la colonie.
Et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau d'évolution ? Elles se sont adaptées à leur milieu ? Pourquoi est-ce que c'est en Amérique du Sud qu'on trouve cette civilisation de fourmis si évoluée ?
C'est une question qu'on pose souvent. Pourquoi on ne les trouve pas en Afrique ? Ben, probablement, c'est plus après la séparation de l'Afrique et de l'Amérique, puisqu'avant il y avait un seul continent, l'Afrique et l'Amérique se sont séparés. Donc en Amérique tropicale ont évolué ces fourmis champignonistes, alors qu'en Afrique c'est plutôt les termites qui sont devenus champignonistes. Pourquoi ça s'est fait d'un côté et pas de l'autre, on ne sait pas trop pourquoi il y a les marsupiaux en Australie. Bon, ça fait partie des continents qui ont évolué chacun de leur côté.
Alors vous parliez de l'Afrique. En Afrique, les deux espèces de fourmis les plus passionnantes et les plus impressionnantes, ce sont les légionnaires et les tisserandes. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire les fourmis légionnaires pour qu'on puisse les reconnaître ?
Alors les légionnaires, c'est les plus spectaculaires probablement, les plus faciles à reconnaître parce qu'on voit des colonnes, des files de fourmis qui avancent, qui coupent les routes, etc., qui peuvent avancer lorsque c'est une phase migratoire, avancer avec des larves, avec donc leur couvain, ou quand c'est une phase sédentaire, si c'est un raid, avec des proies, parce qu'elles chassent et elles nettoient complètement tout leur environnement sur plusieurs centaines de mètres carrés.
Elles font des ravages.
Elles font des ravages et elles nettoient la forêt, elles nettoient tous les tous les insectes qu'elles peuvent capturer, même des vers de terre, etc. Et même des plus gros animaux, hein, c'est classique. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça en Côte d'Ivoire il y a quelques années, dans un laboratoire où il y avait des aquariums avec des serpents. La nuit, les fourmis légionnaires sont arrivées. Le lendemain matin, on a trouvé plus que le squelette des serpents.
Wow.
C'était spectaculaire. Donc c'est intéressant pour dans les villages africains, parce que quand elles rentrent dans une maison, on ne les chasse pas, au contraire, on les laisse nettoyer la case.
Et ces fourmis légionnaires ont une particularité, c'est qu'elles ne construisent pas de fourmilières, elles sont nomades.
Elles ont uniquement des bivouacs qui forment des gros tas, où tout le monde se met dans une cavité naturelle, et tout le monde se tasse là-dedans, c'est spectaculaire, hein, ça peut faire un bloc de 40-50 cm de diamètre. Et la reine est au milieu.
Et elles décident de bouger quand elles ont tout ratissé dans les environs.
Ratissé dans les environs, puis c'est lié aussi au cycle des larves. Le temps de développement des larves. Quand les larves ont fini leur développement, en général, il n'y a plus rien dans les environs parce qu'il fallait beaucoup les nourrir. Donc on déménage, on va ailleurs.
Donc vous dites qu'il faut les laisser agir parce qu'elles nettoient les parasites.
Ah bah tout à fait, oui. Ça fait partie de l'équilibre de la forêt ou même de la savane. On les trouve aussi en savane pour certaines espèces. C'est ce qu'on appelle les magnans en Afrique. On peut utiliser les gros soldats aussi pour faire des sutures de plaies, puisque ça ne s'infecte jamais. Il y a dans les glandes mandibulaires, il y a des antiseptiques, et ce sont de très bonnes sutures.
Alors là, faut être capable de reconnaître un soldat légionnaire.
Il y a aucun problème pour le reconnaître. Vu la taille et la taille des mandibules, on le reconnaît tout de suite. Et puis,
c'est la plus grosse fourmi.
S'il vous monte sur les jambes, on s'en aperçoit tout de suite. Parce que là, quand il coupe, ça fait mal.
Alors, autre espèce de fourmi très répandue en Afrique sont les fourmis tisserandes. Et là, c'est aussi fascinant parce que finalement, elles sont capables de tisser, comme l'indique leur nom.
Alors, c'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi intéressant au niveau structure sociale, puisque là, elles ont inventé le tissage. Elles ont inventé le tissage, c'est-à-dire que c'est des fourmis qui vivent dans les arbres, qui forment des petits nids avec 3 ou 4 feuilles, imaginez 3 ou 4 feuilles d'oranger, par exemple, et elles rapprochent les feuilles en faisant des ponts, en s'agrippant, et il y a des fourmis qui prennent des larves, et les larves sécrètent un fil, comme le ver à soie exactement, et c'est un fil qui sert à tisser le nid. Et ce fil est très très solide. Extrêmement solide. C'est un fil qui est de diamètre très fin.
Un peu comme un fil d'araignée ?
Un peu comme un fil d'araignée, tout à fait. Et c'est plus, la comparaison la plus proche, c'est le fil du ver à soie. Avec la soie, c'est vraiment ce qui sert à faire le cocon pour le ver quand il a terminé sa croissance et pour se nymphoser. Donc on utilise ces larves qui se dévouent, en fait, parce que on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Est-ce qu'elles ont assez de soie après pour se transformer en cocon? Est-ce qu'elles se sacrifient pour la colonie? Personne n'a jamais bien regardé ça. Ce serait intéressant.
Et donc, elles sont capables de construire des nids très importants?
Non, ce n'est pas des nids très... C'est des nids qui font peut-être 10 cm cubes, mais qui ne sont pas très gros, mais il peut y en avoir plusieurs dizaines sur un même arbre. Et la colonie peut s'étendre sur plusieurs arbres. Donc, et elles sont extrêmement territoriales. Et elles protègent l'arbre, en fait, contre tous les envahisseurs. S'il y a des larves d'autres insectes qui veulent venir manger les feuilles, elles sont immédiatement chassées. Donc, ça peut être ça aussi. Ça fait partie de l'équilibre de l'écosystème. En Asie, ces fourmis-là sont utilisées dans les plantations d'orangers. Dans certaines plantations, elles sont même déposées par les agriculteurs pour protéger leurs arbres. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elles sont assez agressives. Et c'est que, bon, si on veut récolter les fruits, on est envahi par les fourmis. C'est un peu désagréable.
Alors, on pourrait vous écouter des heures, hein, Alain Lenoir, nous parler des fourmis du monde entier. En 40 ans d'observation de ces petits insectes, est-ce qu'il y a une espèce qui a particulièrement votre affection?
Bah, écoutez.
Ou votre intérêt?
Alors, je peux dire tout simplement, mon intérêt actuel, c'est des espèces qui vivent dans les déserts ou dans les zones subdésertiques qu'on trouve en particulier au Maroc, dans le Sahara, etc., qui sont des fourmis capables de sortir en plein soleil. Quand plus personne ne sort tellement il fait chaud, elles vont récolter les insectes morts qui ont été imprudents, qui sont sortis en plein soleil. Ce sont des fourmis nécrophages. Et c'est des fourmis donc sur lesquelles on travaille en ce moment. On essaie de voir un petit peu comment elles se reconnaissent, comment elles se différencient. On a des phénomènes de spéciation, parce qu'entre le nord du Sahara et le sud du Sahara, il y a eu c'est les mêmes espèces, mais qui ont évolué pendant des milliers d'années différemment. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de voir à l'heure actuelle.
En tout cas, c'est sans fin.
C'est sans fin. Et surtout les fourmis de milieu tropical. Alors là, je n'étais pas allé en milieu tropical depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Je suis retourné en Guyane, là, et j'avoue que j'ai été à nouveau fasciné par cette profusion. On peut pas faire 2 mètres sans voir une nouvelle espèce de fourmi, des fourmis de tailles différentes, de biologies différentes, de couleurs différentes, etc. C'est toujours aussi fascinant.
Oui, on voit bien que c'était un formidable terrain de jeu pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager votre passion avec nous, Alain Lenoir. Je rappelle le titre de ce livre, L'incroyable instinct des fourmis, qui a été publié chez Flammarion. Vous pouvez le lire, c'est vraiment passionnant. Il y a des photos aussi
très belles,
vraiment
photos
spectaculaires, de fourmilières de dimensions très impressionnantes.
C'est un très bon livre de vulgarisation, mais de bonne vulgarisation, c'est-à-dire avec les références scientifiques, etc. Donc, je le conseille vraiment aussi à tous les auditeurs.
Voilà, et bien écoutez, ce sera entendu, je pense. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Pour réagir à cette émission, c'est pasduvent@rfi.fr ou rejoignez-nous sur notre réseau social. Demain, nous vous parlerons de la 3e révolution industrielle. C'est pour bientôt, c'est en tout cas la conviction de notre invité Jérémy Rifkin, économiste américain que nous recevrons demain. À demain donc, même planète, même heure.